Alors, ce soir, je me sens dans une énergie plutôt chill. Je suis posée dans mon canapé avec mon plaid qui me tient bien chaud et ma petite tasse de thé. Et je voudrais partager cette énergie-là avec toi. Donc, bienvenue dans une conversation avec moi. On se connaît un peu mieux, je pense que tu as remarqué que je suis quelqu'un qui m'intéresse absolument à tout, surtout sur tout ce qui est développement personnel et tout, etc. Et ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup à l'enfant intérieur, tout ce qui est les blessures de l'enfant intérieur et tout, etc. Et en m'intéressant à ces choses-là, regarder des vidéos sur YouTube, lire des livres, faire des autothérapies aussi, exactement, voilà, autothérapie, c'était le mot que je cherchais dans ma tête. Autothérapie, ça a remonté énormément de traumatismes et Je me sens capable d'en parler parce que ça va mieux. Je suis dans une thérapie de guérison et je pense que le fait d'en parler aussi, ça m'aide à guérir et ça m'aide à aller mieux parce que j'ai l'impression de partager une partie de moi et j'aime énormément partager parce que je suis généreuse. Donc, je te partage un peu une partie de moi. Voilà. Et en fait, ça a remonté les traumas du coup de mon enfant intérieur, les peurs et le trauma qui m'a le plus, on va dire, frappé à la gueule. Parce qu'il y a des comportements que j'avais, que je trouvais que c'était normal et que je disais juste, bah, c'est mon comportement, je suis comme ça. Et en fait, non. C'est dû à un traumatisme que je me comportais de cette façon parce que justement, j'étais traumatisée ou du moins, j'avais peur et que c'était mon moyen à moi de me protéger contre le traumatisme. Parce que, en fait, quand tu vis un traumatisme, enfin, moi personnellement, quand je vis mes traumatismes, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai tendance à vraiment oublier, à faire abstraction et à continuer ma vie. Alors que, tu sais, il y a des petits bémols où je sais que, tu vois, Dieu nous a fait avec une conscience. Et parfois, tu vas agir d'une façon où tu vas dire, bah, c'est bizarre, genre, ça ne me ressemble pas. Et en fait, tu ne vas pas faire attention tout de suite, tu vas dire, oh, bon, ok, peut-être que j'ai agi comme ça parce que, voilà. Mais avec du recul et avec du temps, et surtout, moi qui m'intéresse au fait d'être meilleur pour soi-même, bah, je me suis rendu compte qu'il y a des comportements que j'avais qui n'étaient pas normaux et que d'où ça venait. Bah, j'avais pas forcément envie de rentrer en profondeur parce que je savais très bien que ça allait être énormément douloureux et ça a été le cas. Voilà. J'espère que je vais pas pleurer ici parce que voilà, j'ai parlé de mes traumas là. J'espère que je vais pas pleurer. Hein. Bref. Et ensuite, le premier trauma, on va dire entre guillemets, enfin le premier trauma. La première chose qui est ressortie de ces recherches, de ces autothérapies, c'est le trauma du rejet. Ça veut dire que moi, dans mon comportement, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément peur de l'abandon parce que je pars du principe qu'on ne peut rien y faire. C'est quelque chose que je pense que depuis petite, j'ai toujours accepté le fait que les gens partent de ta vie. Pour moi, c'est normalité. Genre, c'est normal que les gens, du jour au lendemain, ne veuillent plus faire partie de ta vie ou se réveillent avec des humeurs ou des envies différentes que hier, tu vois. Comme par exemple le fait qu'on ne peut pas empêcher la mort parce que aussi, la mort, on peut voir ça comme une forme d'abandon. Tu vois, quelqu'un qui meurt du jour au lendemain, c'est comme si aussi... Enfin, c'est un peu paradoxal de dire ça comme ça, mais la manière dont je visualise la chose, c'est vraiment comme ça. C'est, si quelqu'un meurt, tu peux rien y faire parce que c'est comme ça. Et que, mine de rien, les gens, quand ils perdent leurs proches, ils ont l'impression que leurs proches les a abandonnés, les a délaissés, les a laissés, quoi, tu vois. Et moi, je pars du principe que... Enfin, je suis toujours partie du principe, ou même, je pense, dans l'environnement où j'ai grandi, l'éducation que j'ai eue, je me suis dit, bah, on ne peut rien faire quand quelqu'un veut partir. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester. On ne peut pas forcer quelqu'un à... Voilà, si on ne peut rien faire contre la mort, on ne peut rien faire si quelqu'un du jour au lendemain se réveille et se dit, bah, je veux partir de ta vie. Ou demain, quelqu'un vient me voir et me dit, je ne t'aime plus. Ou je veux que c'est un infini. Enfin, c'est comme ça, on ne peut pas retenir les gens. Et ça, je pense que pour moi, c'est ma définition de l'abandon. C'est que bah, si quelqu'un décide de partir, ce n'est pas grave. Tu vois, genre, moi aussi, je suis quelqu'un qui, il y a des amis avec qui, genre, ça fait 5 ans qu'on est amis, mais si demain, voilà, je décide de changer d'avis et de juste dire, bah, écoute, je préfère qu'on arrête d'être amis, bah, c'est mon droit et j'ai le droit de le faire, et puis, bref, etc. C'est ma vision de l'abandon, en tout cas. Donc, je n'ai pas forcément peur de l'abandon. Mais, il y a quelque chose dont j'ai du mal, encore un peu aujourd'hui, je pense, actuellement, surtout mon ego de femme, enfin mon ego de femme qui est en train de se développer, avait du mal avec ça et là elle est en train de comprendre que c'était l'ego mais c'était aussi dû aux blessures intérieures. J'ai du mal avec le rejet. Ça veut dire que moi dans mes relations amoureuses, parce que là je vois pas d'autres exemples, en fait je vais pas vous parler de mes amis, je trouve que ça va servir à rien. Dans mes relations amoureuses, j'ai toujours essayé d'être la miss parfaite. Alors, si vous avez suivi mon dernier podcast avec le rapport avec mon corps et tout, etc., vous savez très bien que voilà, j'ai vraiment, on va dire, pris du retard, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment du retard parce que je pense que chaque personne avance à son échelle et en soi, moi, ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, non, ça serait pas correct de dire que j'ai pris du retard. Donc, non, je devrais pas dire ça. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que ma façon dont j'ai réappris à reconnecter avec mon corps, mes sens et mes émotions, ça a été très tard. Et quand j'ai me suis retrouvée face à l'amour, j'étais pas totalement en connexion avec mes émotions et mes sens, en fait. Tu vois, mon corps, mon esprit et tout, etc. Du coup, j'ai essayé vraiment d'être cette miss parfaite. Ce que je veux dire par là, quand je dis miss parfaite, c'est que, vous savez, genre les filles qui se tiennent bien droites, qui font tout parfaitement, elles gèrent à l'école, elles gèrent dans ses relations amoureuses, elles gèrent à l'intérieur. C'est ce genre de meuf, tu te dis, putain, je voudrais trop être comme elle, tu vois. Je voudrais cette femme-là que la société un peu idéalise, mine de rien, que les réseaux sociaux idéalisent, que toi aussi, tu vis dans tu vis dans les réseaux, tu vis dans une communauté, donc mine de rien, toi aussi, tu idéalises. Et moi, j'idéalise beaucoup les miss parfaites. Jusqu'en fréquenter une, et bon, bref, je rentrerai pas dans les détails. Mais de l'œil extérieur, je me disais, ouais, fallait que je sois une miss parfaite. Et du coup, quand je me mettais en relation avec une personne, déjà, faut savoir que mon rapport avec les hommes, c'est très bizarre. C'est que j'ai grandi avec des hommes, mais la manière dont ils se comportaient en amour a fait en sorte que je ne voulais pas m'intéresser à l'amour parce que j'avais extrêmement peur que ces hommes-là aient le même comportement que je connaissais de mon entourage, tout simplement. Du coup, le rapport avec les hommes, c'était très compliqué. Et comme je suis une personne qui... Je pense que je suis bizarre. Enfin, je rentre pas dans les normes. Je pense que depuis petite, j'ai jamais aimé les règles établies. J'ai toujours fait les choses par instinct, par envie, parce que voilà. Et puis, j'ai été, pendant mon adolescence, dans ma construction, voulu rentrer dans un moule, parce que c'est humain, que je voulais aussi pas faire avec mon instinct, mais juste faire aussi... comme les règles voulaient... Enfin, je voulais aussi suivre les règles, tout simplement, les codes de société, tout, etc. Je voulais faire comme tout le monde. Et puis, voilà. Du coup, voilà, mon rapport avec les hommes, c'était beaucoup dans la compétition. J'étais beaucoup en mode, si je fréquente l'amour, tout simplement, je vais pas dire les hommes, je vais dire l'amour. Si je fréquente quelqu'un avec qui, genre, j'ai une relation, des sentiments... Comme les sentiments, c'est quelque chose dont il n'y a pas de règles. Les sentiments, tu ne les contrôles pas. Demain, tu peux tomber amoureux de Paul, Jacques. Demain, tu peux tomber amoureux d'un mec. C'est même pas ton style, mais tu tombes amoureux de lui. Mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que dans les sentiments, dans l'amour pur, il n'y a pas de règles. Du coup, quand tu te retrouves face à ces sentiments, à ces choses-là, face à une autre personne que toi, tu ne connais pas, automatiquement, mon moyen à moi de me protéger, c'était d'être la miss parfaite. C'était, je ne voulais pas apparaître autrement. Je voulais vraiment être vue dans les yeux de la personne, que je contrôlais tout, que je contrôlais mes émotions, que je contrôlais mes sentiments, que moi, voilà, je suis la miss parfaite, voilà. Alors que pas du tout, pas du tout. Et je pense que les énergies et les émotions se ressentent, surtout quand tu partages ta vie avec quelqu'un. Mais voilà, à l'époque, voilà, j'en savais rien et en soi, je peux pas m'en vouloir de pas avoir eu de connaissances dessus et c'est la première fois, donc tu sais pas. Et puis, en grandissant, avec du recul, en disant des trucs et tout ça et tout, je me suis rendu compte que le rejet, c'était quelque chose qui m'effrayait, mais waouh, qui m'effrayait, mais c'était un truc de zinzin. Que dès que j'avais l'impression, ça va être un peu manipulateur ce que je vais dire, mais la manière dont ça s'est passé, c'était pas du tout mon intention de manipuler qui que ce soit, parce que je faisais ça de manière inconsciente, je m'en rendais pas compte. Je me suis rendu compte là il y a un mois, genre, tu vois. Donc c'est une dinguerie. Et du coup, quand j'avais l'impression de perdre le contrôle d'une personne, ou du moins une personne qui voulait quitter ma vie, et que j'avais l'impression que je perdais un peu l'emprise de la personne. Putain, c'est horrible de dire ça comme ça, c'est vraiment horrible. Waouh. Une minute de silence. Pardon. C'est horrible, mais bon, c'est comme ça que je visualisais les choses. Mais pour moi, c'était de façon complètement inconsciente, tu vois. Et du coup, j'étais là en mode, je perds le contrôle sur une situation, sur une personne. Et j'essaye de tout faire, de vraiment de tout faire pour reprendre contrôle de la situation. Parce que j'avais tellement peur d'être rejetée, j'avais pas peur d'être quittée. J'avais peur d'être rejetée. C'était pas la même chose. C'est-à-dire que si une personne décidait de partir de ma vie, c'était OK. Mais que si je savais que j'avais toujours... Enfin, je pouvais revenir dans sa vie, du moins, entre guillemets, récupérer la personne, c'était quelque chose pour moi de m'assurer que, je suis pas rejetée. Je suis pas rejetée, ça va, tout va bien et tout. Il y a toujours un truc, tu vois. J'acceptais pas le fait que, on va dire... qu'une personne du jour au lendemain par exemple puisse ne plus s'intéresser à moi, parce que ça arrive et c'est la vie, tu vois. Et je supportais pas ça, j'étais là en mode non, c'est pas possible. Genre, j'ai tout bien fait, tu vois. En fait, je partais du principe que j'ai tellement tout bien fait pour que tout soit parfait, pour que la personne me voit comme Miss Parfaite, que là, j'ai trop investi de moi et des parts de moi pour que la relation elle se finisse, certes, mais que en plus de ça, la personne elle puisse genre ne plus me vouloir dans sa vie définitivement. Pour moi, c'est impossible. Genre, c'était impossible, tu vois. C'était impossible. Et du coup, je faisais des choses qui... C'était des comportements complètement crazy. Mais je me suis dit, c'est normal, genre, de faire ça. Et je ne supportais vraiment pas le rejet. Au point où, genre, quand je voyais que quelqu'un se désintéressait de moi, j'essayais de reprendre. En fait, c'est vraiment de la manipulation, mais je crois que j'ai pas fait exprès. Genre, je vais reprendre le contrôle sur la situation. Et en plus de ça, en vrai de vrai, je pense que j'ai tellement eu peur du rejet que des fois, je me suis fait croire que j'étais amoureuse, alors que je pense que pas du tout. Je crois que je suis jamais tombée réellement amoureuse. Ou en tout cas, ma vision de l'amour, elle change constamment. Peut-être là, je vous dis ça, si ça se trouve, genre, dans 5 ans, je changerai d'avis, je sais pas, j'évolue et je change tout le temps, et j'aime ça. J'aime le fait vraiment de faire évoluer mon esprit et de le faire travailler sur d'autres choses et de changer de personnalité, changer de personnalité constamment, je trouve ça vraiment cool. Mais voilà. Et du coup, je partais du principe, j'ai oublié ce que je disais. J'ai un moment de trou là, attendez, je reviens, parce que là, j'ai oublié ce que je disais. J'ai oublié ce que je disais. Purée, j'ai un moment de trou, là. Je suis vraiment fatiguée, hein. Non, mais c'est une dinguerie d'oublier ce qu'on dit comme ça, alors que j'étais bien lancée. Et du coup, oui, voilà. Et du coup, comme j'avais peur du rejet, je pense que j'ai utilisé, mine de rien, de la manipulation malgré moi. Je pense que j'ai même pas fait exprès. Et quand je dis que je suis pas tombée amoureuse, comment je me suis rendu compte que je suis pas vraiment tombée amoureuse, c'est que je me suis accrochée à des relations ou à une relation précisément. Eh, j'ai dit, le français c'est dire, hein. Putain, je suis congolaise, faut pardonner. Mais je me suis accrochée dans une relation sans vraiment, je pense, j'étais pas vraiment amoureuse. Peut-être oui, j'avais des sentiments, mais j'étais pas amoureuse. C'est juste que je me faisais croire que j'étais amoureuse. Pour juste avoir un sentiment du fait que, vu que je suis amoureuse, je peux pas lâcher l'affaire. Et si je peux pas lâcher l'affaire, il va voir que je ne lâche pas l'affaire. Enfin, je sais pas comment expliquer là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis jamais tombée amoureuse. Enfin, je sais pas en vrai. Ah, j'ai naïveté. Je sais plus. Je sais pas. Bref, parlons du trauma. Voilà. Et du coup, ce trauma, j'ai remarqué que ça m'a impacté beaucoup, même avec des amis et tout, etc. Que j'étais quelqu'un de très fermé, que j'exprimais pas forcément mes émotions, parce que, aux yeux de certaines amies, en tout cas, j'avais envie de garder cette image de la meuf qui gère, la meuf qui est parfaite, et que je voulais pas qu'ils sachent que je gérais pas, et que ça arrivait que je gérais pas, tout simplement, et qu'ils se disent « Ah ouais, non, tout et tout ». Et en fait, ce sentiment aussi de rejet, c'est aussi énormément impacté par le regard des autres. J'ai toujours eu l'impression, je pense, depuis très longtemps, d'être vraiment pas à ma place dans la société, que ma façon de penser, de raisonner ou de voir les choses était complètement différente, mais vraiment à une échelle incroyable, tu vois. Et que du coup, comme j'ai toujours eu cette sensation-là pendant longtemps, quand les autres... on va dire, juger un peu ma façon de penser, ça m'impactait directement. Et du coup, mine de rien, comme je l'ai dit précédemment, t'as pas envie forcément de te faire remarquer ou de te faire exclure. Parce que je pense que c'est humain de vouloir appartenir à un groupe social et tout, surtout quand t'es en train de te construire ou du moins t'es en train de te poser des questions sur ta propre personne. Et des fois, j'avais des conversations, tu vois, on est à une soirée, on discute et tout, etc. Il y a tout le monde et tout. Et des fois, t'as une conversation, toi, tu dis ta façon de penser, et les gens, ils te regardent en mode, hein, Et la plupart du temps, c'est que le sujet qui anime le plus le gens, c'est les couples, les mariages, les concepts comme ça et tout ça. Moi, par exemple, je trouve que j'ai aussi eu une sorte de, on va dire, de vérité face à moi-même. C'est que j'ai toujours eu peur d'être dans une relation engagée parce que, oula, ça va être dur. Ça va être très dur, là, ce que je m'apprête à dire. Pour moi, en tout cas, ça me prend parce que c'est vraiment une émotion. Voilà. J'ai toujours eu peur de me mettre dans une relation engagée. Et je pense que je ne suis pas la seule, en vrai. Parce que je trouve que la définition d'une relation aujourd'hui, elle est trop engagée. Enfin, elle est trop engagée. Oui, mais non. C'est pas ça que je voulais dire. Qu'une définition d'une relation aujourd'hui, elle est trop stricte. Qu'il y a trop de règles à respecter quand tu es dans une relation. Et je pense que je suis quelqu'un d'un esprit libre et que je n'aime pas être dans des cases, être dans des règles. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime pas qu'on m'impose les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui reste et qui restera en moi. C'est que pour moi, les relations, engagement, tout ça, mariage et tout, c'est trop un truc qu'on prend trop au sérieux. Alors qu'en vrai de vrai, c'est pas un truc à prendre aussi sérieusement. Selon ma vision, pour moi, une relation, il n'y a pas de règles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles établies. On est juste deux personnes qui ressentent des sentiments. Et je parle du principe que les sentiments et l'amour n'a pas de règles. L'amour, elle est pure, elle est là. Et que si moi et toi, on décide de se mettre dans une relation, il ne devrait pas avoir des règles établies du genre « Ouais, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça, enfin, tous ces trucs-là et tout. » Qu'aux yeux des personnes paraissent logiques. Bah pour moi, ce n'est pas logique. C'est que je suis dans une relation avec toi. Moi, je vois une relation, selon ma vision, c'est que c'est mon meilleur pote avec qui on fait des bisous. Tu vois, c'est mon meilleur pote avec qui je fais des bisous. Donc, il n'y a pas forcément ce truc où on doit énormément se prendre la tête, énormément se diriger. Enfin, c'est sûr que c'est difficile d'être dans une relation et que forcément, à un moment donné, tu dois t'adapter à l'autre, au comportement des autres, et tout, etc. C'est pour ça que je pense que je pars du principe que quand tu rencontres quelqu'un, vaut mieux genre lui dire que bah, je fonctionne comme ça, toi comment tu fonctionnes, et puis vous voyez tous les deux comment vous voulez que la relation fonctionne, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a trop de règles établies, genre oui, enfin bon, faut pas tromper. Bon, attendez, ça peut être très mal interprété, mais écoutez jusqu'à la fin. Que faut pas tromper, faut pas... Enfin, quand t'es marié, faut que tu restes marié, même si du jour au lendemain, tu ressens plus rien. Enfin, moi, je trouve qu'en vrai, la vie, c'est une drogue. C'est une drogue que tu prends, chaque matin, et en soi, si tu pars du principe que la vie, elle est comme elle est, et qu'elle va t'apprendre des choses, et qu'elle est chill, ben pourquoi on partirait pas du fait que être dans une relation, en soi, c'est chill? Il n'y a pas besoin d'établir 1000 règles, 1000 contraintes. Enfin, moi, je sais que vraiment, c'est vraiment le truc qui me fait peur, c'est être dans une relation. Et par exemple, être avec quelqu'un qui ne comprend pas le fait que moi, j'ai besoin d'être seule pendant un mois et de ne pas parler à personne. Genre, vraiment pendant un mois, de ne pas te parler parce que je n'ai pas envie. Tu vois. Ou du moins, de ne pas comprendre le fait qu'une personne ne puisse pas comprendre que j'ai des amis garçons. Enfin, après ça, voilà, je donne des exemples un peu basiques. Mais... ce que j'ai par là, c'est que les gens, quand ils sont en couple, de ce que j'ai remarqué, ils établissent tout de suite les règles, alors que, en vrai de vrai, quand t'es avec une personne, tu vois comment ça évolue, et après, bah, vous deux vous coordonnez sur des choses par amour que vous pouvez faire et ne pas faire. Pas parce que c'est une règle, tu vois ce que je veux dire ? Pas parce que c'est comme ça et que bah, c'est normal et que c'est établi, tu vois. Par exemple, pour moi, je trouve que par exemple, flirter quand t'es en couple, c'est pas vraiment de la tromperie. C'est juste mon opinion. C'est pas, pour moi, c'est pas de la tromperie, tu vois. C'est rien. Genre, enfin, c'est normal que, imaginons au début de relation, quand ça fait très longtemps que t'es avec quelqu'un, l'humain est un peu égoïste, ça c'est vrai, on est de nature égoïste. Quand ça fait très longtemps que t'es avec quelqu'un, j'aurais la compréhension de comprendre, ou du moins d'avoir la vision du fait que tu puisses avoir envie d'aller voir ailleurs, ou du moins t'as pu flirter avec quelqu'un à une soirée et que bah, ça t'a un peu rappelé une certaine phase de toi que tu n'as plus dans ta relation, dans ton couple. Et en soi, je trouve que c'est un peu OK. Juste, faut juste être honnête. Moi, je pense que en amour, c'est plus l'honnêteté qu'on devrait genre primer que les autres règles du genre... Enfin, des fois, j'entends des gens parler « Oui, mais mon mec, il n'a pas de meilleur ami. Mais non, mais si, mon mec, il sort pas à telle heure. Mon mec... Oh. » J'en parle parce que j'ai eu des conversations comme ça récemment et ça m'a trop fatiguée. Et j'étais là en mode, waouh, tout ça là. Ou même des fois, j'entends des mecs aussi qui disent, ouais, mais ma meuf, elle a pas le droit de faire ça, ouais, ma meuf, elle fait pas ça, ma meuf. En fait, il faut se rendre compte que c'est un individu avec un autre individu qui s'accompagne ensemble et pas un couple où c'est deux personnes ensemble et en gros une seule direction. Non, c'est deux individus qui ont leur parcours de vie, qui vivent leur parcours et que du coup, par amour, se réunissent pour pouvoir former un bout de chemin ensemble avec, dans le parcours de l'un et de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment ma vision du couple. Et quand je le dis, à l'heure du temps, les gens ils me regardent en mode wesh, c'est un peu space ton truc là. Voilà. Et que par exemple, le concept du mariage, je trouve ça bad. Enfin, je suis désolée. Hein. Enfin, pourquoi je m'excuse ? Oui, je m'excuse parce que c'est un concept religieux. Donc, mais en soi, je dis pas quelque chose de méchant, mais je trouve ça. La manière dont je pense que c'est établi dans la Bible, c'est établi avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de oui et tout ça. Mais la manière dont les humains utilisent ça au jour d'aujourd'hui, et la manière dont c'est pris au sérieux, je trouve ça con. C'est trop de pression, genre. En mode, c'est trop. Genre, tu te maries, ils te mettent archi la pression, oui. Surtout quand t'es une femme et tout, on a des trucs, ouais. Même si tu l'aimes plus, ou même si ça va plus, tu dois rester avec lui parce que le mariage et tout. Le concept du mariage, il me fane. Je vous promets, il me fane. Tu vois, je dis pas que je veux pas me marier, bien sûr, tu vois. Mais je veux pas me marier parce que il y a des règles établies. Je me marie par amour. Je me marie parce que voilà, j'aime la personne et que voilà, je suis amoureuse et tout, etc. Et que je veux finir ma vie avec la personne et tout, etc. Enfin, je vois que par la personne, ou du moins, la personne est un peu dans la même vision que moi. Elle arrive à comprendre et tout, etc. Ok, tu vois. Et je trouve que juste le mariage de base, c'est juste, ça devait être établi comme un mariage d'amour au jour d'aujourd'hui. Voilà, le mariage, c'est vraiment une sorte d'engagement beaucoup trop pris au sérieux, je trouve. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est pas un truc de ouf. Le mariage, c'est un risque aussi. Hein. Demain, tu te mets en mariage avec quelqu'un, tu te maries, la personne, elle peut se réveiller et dire, bah, écoute, je préfère qu'on arrête, enfin, on divorce parce que, je sais pas, je t'aime plus. C'est un risque. J'ai l'impression que quand tu te maries, c'est fini. Genre, t'as pas le droit de divorcer, t'as pas le droit, genre, de faire des erreurs ou du moins... Ok, c'est quand même une étape supérieure de votre relation, ou je ne sais quoi, mais juste, je sais pas. De base, c'était pas prévu que je parle de ça, mais je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de parler de plein de choses en même temps, donc on soit... Voilà. Et du coup, quand je vous parlais de mes traumas, en fait, ça m'a fait énormément de la peine de me rendre compte que les autres pouvaient autant m'impacter, de un... Et qu'en amour, bah, je pouvais pas être moi-même totalement parce que j'avais peur d'être blessée, de un. Et au-delà d'être blessée, j'avais aussi peur d'être jugée parce que je pense que c'est toujours un peu resté. Je me sens vraiment pas comme tout le monde, tu vois. Les choses qui sont basiques pour certaines personnes, pour moi, ça l'est pas, tu vois. Et je pense que chaque personne voit... Sa vision et tout, etc. Mais c'est juste que quand tu te retrouves face à des débats et que bah, tu vois que tout le monde dans la salle a le même avis que, je sais pas, une seule personne et que toi t'es juste là en mode bah non, je suis pas d'accord et que voilà, bref. Et du coup, ça m'a rendu énormément triste et du coup, j'ai fait une analyse de toute mon enfance, de tout ce qui aurait pu m'arriver. Bon, ça a fait mal, hein. Je vous mens pas, les gars. Ça m'a fait chialer, hein. Franchement, il y a des choses que je peux pas forcément dire ici, mais waouh, ça m'a vraiment fait mal et tout, de me rendre compte de plein de choses comme ça. Et puis, bah, je suis allée voir Dieu, on a discuté et tout, etc. Et puis, Dieu a allégé un peu mon cœur, parce que voilà. Mais voilà, je me suis rendu compte vraiment aussi en parlant avec juste des personnes qui m'entouraient et en observant aussi les personnes qui m'entouraient, c'est que les gens avec qui je suis amie, qui m'aiment, parce que du coup, je parle du principe amie, du coup, amicalement, qui m'aiment et tout, etc., bah, c'est les gens qui me connaissent sur toutes mes parts de lumière comme d'ombre, et du coup, qui m'aiment parce que justement, je suis celle que je suis, même si j'ai une façon de penser qui, des fois, qui les fascine, ou des fois, qui les rend dingues, ou des fois, qui disent, putain, elle est dingue, voilà, bah, ils m'aiment parce que je suis moi, tu vois, et je me dis, bah, je devrais un peu plus m'aimer et mettre en avant ma façon de penser, d'ailleurs, pourquoi ce podcast existe, et être juste... à l'aise avec moi-même, tout simplement. Et que, en soi, la vie, comme je l'ai dit, c'est une drogue, faut pas la prendre au sérieux, dans le sens où, tu peux faire de ta vie ce que tu as envie de faire, selon ta vision. Et si tu veux que ta vie, elle soit remplie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis des autres sur ta vie, tu vas en souffrir. Et tu auras l'impression, genre, tu vas avoir 40 ans, que tu as tout fait, entre guillemets, dans les règles de la société, mais que tu n'as jamais vraiment été heureuse. Alors que si tu suis tes propres envies, ta propre lumière, tu trouveras forcément des gens qui vont résonner dans la même lumière que toi. Et si tu n'en trouves pas, c'est pas grave, tu t'aimeras suffisamment pour pas en avoir besoin. Et je pense que tu t'aimeras tellement que si tu te retrouves dans la situation qui est la mienne, où tu te sens un peu seule dans ta façon de penser, bah cette solitude, au fur et à mesure du temps, je te promets, elle n'existe même plus. Genre moi, je la ressens même plus. Genre par exemple, il y a des situations où je vais dire ma façon de penser, même si je suis la seule à penser comme ça, bah je vais me dire, bah c'est ma façon de penser, et c'est comme ça. Et je me sentirai grave bien parce que c'est comme ça, et c'est chill, tu vois. Et c'est OK. Et j'ai appris du coup à vraiment m'accepter sur plusieurs aspects, perception de ma propre personne. Et petit à petit, j'apprends encore des choses sur moi. Aujourd'hui, je suis comme ça, mais dans 2 ans, je serai une autre personne, voilà, etc. Bref. Mais en tout cas, je vous encourage à vous connecter à vos émotions profondes, parce que sans vos émotions profondes et sans votre lumière intérieure, vous ne pouvez pas faire créer des relations autour de vous. Et si vous créez des relations, ça sera des relations pas authentiques. Apprenez à avoir des conversations profondes. Apprenez à dévoiler une face de vous, même si on est dans une société avec les réseaux sociaux, d'ailleurs j'en parlerai prochainement, mais avec les réseaux sociaux qui on va dire, mangent un peu la réalité. Les réseaux sociaux nous ont nourris d'une façon très malsaine, où le fait d'être soi-même, c'est vu comme quelque chose de genre un peu bizarre, alors que c'est juste humain. Ou le fait, par exemple, de juste être vulnérable, c'est vu comme de la fragilité, alors que c'est quelque chose de humain. Quand on sort du vagin de notre maman, on pleure, donc c'est juste normal. Et je pense que je suis dans j'ai 20 ans au jour d'aujourd'hui. Je vais apprendre plein de choses encore sur moi, sur la vie. Et je viendrai vous dire ici. Et dis-toi que la vie, par la grâce de Dieu, j'espère pour toi, elle sera longue. Et pour moi aussi. Et que tu vas apprendre tellement de choses, mais il faut que tu te laisses la liberté d'apprendre des choses sur toi et que tu te laisses la liberté d'oser et d'essayer d'être toi dans tous les domaines possibles, que ça soit au travail, dans tes relations avec tes amis, tes relations amicales. Parce que quand t'es bien avec le fait d'être toi-même, et ça je parle pas vraiment quand t'es bien avec le fait que je suis moi et je m'aime comme ça et Dieu a fait que je sois comme ça et que voilà, bah tout va mieux et tout va vraiment dans la paix. Et en vrai de vrai, prends pas trop les choses au sérieux. Moi en vrai, je me suis tellement pris la tête pendant pendant ma construction de moi, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me laisser toucher par tout et n'importe quoi. Je me dis, la vie, elle est simple. Et surtout, la vie, elle mérite d'être vécue comme j'ai envie de la vivre. J'ai envie de croquer dans la pomme de la vie. Mais voilà, j'ai envie que la vie, elle soit vécue comme moi, je visualise ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que je ne me suis pas perdue dans mon discours. Et si je me suis perdue, en vrai, ce n'est pas très grave. Je voulais vous faire passer un message et me faire passer un message à moi aussi. Et vous envoyer toute cette énergie de bienveillance et d'amour et de non-prise de tête. Vraiment, lâchez prise. Apprenez à lâcher prise. Apprenez à vous détendre et à lâcher prise. Et vous verrez que les choses iront mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout prenez le temps de guérir votre enfant intérieur. Même si je vous promets que ça va être douloureux, je ne vais pas vous faire de la fausse bienveillance ici ou vous dire « Oh mais non !» Non, ça va être très douloureux émotionnellement. Ça dépend votre degré de comment vous ressentez les choses encore une fois. Mais moi ça a été très douloureux. Mais vous verrez que la guérison sera parfaite et la guérison sera lumineuse et incroyable. Je parle trop comme une hippie, là. C'est une dinguerie. Voilà, gros bisous!